Alors j'espère que tout le monde a bien dormi. Il me semble que ça dormait bien. J'ai entendu, j'ai même un bébé à un moment donné. Mais ça n'a pas réveillé tout le monde. Seulement les parents. Bon. Oui, alors, on m'a demandé des nouvelles de Père Joseph. Parce que bon, c'est vrai que, étant donné qu'il y a plusieurs parmi vous qui connaissent que pour la première fois la communauté, donc je n'avais pas parlé, mais donc sachez que Père Joseph va bien. Il est actuellement avec les adolescents en Vendée, parce que au début février, ben, il ne savait pas que le 11 février, le chapitre allait le nommer le supérieur, on peut dire modérateur pour la communauté. Et comme c'était prévu qu'il fasse le camp des adolescents, et il n'avait pas du tout l'intention de venir à la session, parce que bon, il savait que je prenais en main la session, comme chaque année, donc il n'y a aucun problème. Et alors, Mère Hélène, vous l'avez eu au téléphone hier, vous pouvez dire quelques mots comme ça, pour que tout le monde soit bien au courant. Voilà.
Alors c'est vrai que ceux qui nous connaissent bien, ceux qui nous connaissent moins bien, pour comprendre un petit peu. Alors nous sommes donc une famille missionnaire fondée par le père et mère Marie-Augusta. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous l'avez vu hier soir, on a eu un petit aperçu de ce que le père pouvait dire sur le sens du dimanche et mère Marie-Augusta sur l'apostolat du sourire auquel elle attachait beaucoup, beaucoup d'importance. Ça, c'est vrai. Et du coup, une communauté qui a une forme un peu particulière, une gouvernance particulière, puisqu'elle est composée de frères et de sœurs, et de frères et de sœurs qui sont gouvernés, si on peut dire comme ça, mais c'est plus que ça dans notre famille missionnaire, puisqu'on a ce charisme propre de vie de famille par un père et une mère. Et dans la volonté, dans ce que nos pères fondateur et mère Marie-Augusta ont reçu comme intuition, c'est que le père et la mère sont non pas élus à vie, mais une gouvernance stable. Donc ça veut dire que dans toute communauté religieuse, d'ailleurs, l'élection du supérieur se fait au cours d'un chapitre. Et donc, dans notre famille missionnaire aussi, depuis la reconnaissance canonique comme institut de vie consacré, hein, Rome nous a reconnu depuis 2005 comme congrégation religieuse. 2000, pardon. Oui, ad experimentum, mais 2005 définitivement, effectivement. Donc, avec un père et une mère à la tête qui, tous les 6 ans, peuvent être réélus tant que, c'était la prudence du père dans ce qu'il écrit dans la règle, tant qu'ils ont les capacités de gouverner. Ça pourra arriver même à un père ou à une mère supérieure d'être atteint par la maladie d'Alzheimer, par exemple, et de pouvoir peut-être vivre encore beaucoup d'années sans pouvoir assurer ce service de l'autorité, parce que c'est un service, vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour nous ? Nous devons vivre de cette stabilité, mais cette stabilité n'est pas encore reconnue pleinement. Les constitutions que nous avons actuellement nous demandent d'être père ou mère pour 3 mandats seulement de 18 ans. Donc, cette année, Père Bernard n'est pas tout à fait arrivé au terme de ses mandats, puisqu'il aurait pu encore avoir 3 ans. Donc, au dernier chapitre, il y a 3 ans, nous avons fait le choix de faire une élection de 3 ans sur le conseil d'un cardinal canoniste de Rome, qui nous a dit, avec la situation de l'Église, il vaut mieux, parce que dans l'Église, actuellement, on n'est pas pour la stabilité. Voilà. Il y a des raisons qui se défendent. Alors, en même temps, nous, c'est ce qui fait le propre de notre charisme. Donc, les constitutions seront retravaillées, seront voter en chapitre, puisque c'est le chapitre qui a l'autorité, pour retrouver cette stabilité. Donc, une élection du père de la mère tous les 6 ans, tant qu'ils en ont les capacités. Ça viendra. Mais c'est pas ce que nous avons pour le moment. Donc, père Bernard aurait très bien pu, cette année, je pense que si lui-même n'avait pas demandé de ne pas l'être, il aurait été réélu, puisqu'il a toutes les capacités pour assurer la charge, hein, encore maintenant. Donc, ce qui s'est, il a demandé de ne pas être réélu, de ne pas faire partie de la gouvernance. Donc, un choix qui a été pris dans la prière, puisque ce sont des décisions importantes. Et donc, c'est père Joseph qui, depuis le 11 février, est le père modérateur, ou le modérateur. Alors, bien sûr qu'on est, nous, dans la communauté, dans une situation un peu particulière, puisque nous savons ce que veulent nos fondateurs, une stabilité. En même temps, à la suite du père et de mère Marie-Augusta, on veut vraiment aussi être les premiers obéissants, hein, il faut. Donc, obéissance à nos constitutions. C'est les constitutions qui nous guide et on doit y être fidèle. Donc, on se retrouve dans une situation où Père Joseph est donc modérateur et Père Joseph prend petit à petit aussi sa place, forcément. Ça s'est passé le 11 février. Pour ceux qui nous connaissent, il y a besoin d'un temps d'adaptation. Il était prévu qu'il fasse le pèlerinage, il était prévu d'assurer le camp et sa présence est très importante aussi. Donc, voilà, petit à petit, les choses se feront. Et bien sûr que Père Bernard, même s'il n'est plus le modérateur, garde sa place. Il est quand même celui qui, d'abord, a collaboré très longtemps avec le Père. Même si on a la grâce avec Père Joseph, ils sont rentrés quasi en même temps. Ils ont fait leur vœu perpétuel en même temps avec le Père. Donc, il y a aussi, chez Père Joseph, cette grâce que nous avons de pouvoir, voilà, de pouvoir collaborer avec lui. Et en même temps, Père Bernard aussi a collaboré pendant de nombreuses années avec Mère Madeleine. Donc, il a aussi tout Mère Madeleine, vous l'avez vu hier soir, voilà, qui nous a marqués. Parce que même si elle n'était pas Mère Marie-Augusta, elle a quand même continué Mère Marie-Augusta avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour, en rayonnant cette joie de Mère Marie-Augusta, son énergie, c'est... vraiment, on garde de Mère Madeleine, on lui demande de beaucoup nous aider à poursuivre cette belle et grande mission que nous avons. Donc voilà, c'est une situation un petit peu particulière. Donc, dans la communauté, nous la comprenons bien. Alors, c'est vrai que pour nos amis, ça, on peut se dire, mais Père Bernard continue toujours à écrire la consigne spirituelle. Oui, parce que avec Père Joseph, nous en avons parlé ensemble. Il nous a semblé bon que ce soit Père Bernard qui continue à écrire la consigne spirituelle. D'abord parce que Père Joseph a beaucoup d'autres responsabilités pour le moment au sein de la communauté, ce qui concerne la formation et tout, les adolescents. Donc pour lui, c'était difficile de tout assumer d'un coup. Et même, c'est Père Bernard aussi qui continuera cette consigne parce qu'il est le porteur un peu de toutes ces consignes de Mère Marie-Augusta pour la faire connaître. Alors là, c'est Père Bernard qui est là pour la session, mais on informe bien Père Joseph qui nous suit, qui prie. Et puis pour ceux qui ne le connaissent pas, il aura la joie de vous connaître bientôt. Voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous dire ce matin. J'espère pas avoir été trop longue.
C'est la mère supérieure.
Eh oui, il me doit obéissance.
Non, mais de toute manière, la situation se vit très bien avec Père Joseph. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, je vais essayer de résumer un peu pour que. On a dit beaucoup, beaucoup de choses déjà depuis le début. Le thème de ce premier enseignement, c'est la joie dans 3 textes de l'Église depuis Vatican II, Gaudium et Spes pour Vatican II, Gaudium in Domino Paul VI, Evangelii Gaudium Pape François. Donc, Gaudium et Spes, joie et espérance, Gaudium in Domino, joie dans le Seigneur, et Evangelii Gaudium, joie de l'Évangile. Nous avons déjà entendu des témoignages et des enseignements très éclairants sur la nature de la joie dans l'Esprit Saint. Ce n'est évidemment pas une joie superficielle ou mondaine, mais une joie fruit de la présence de l'Esprit Saint dans l'âme du baptisé. Cette joie, le Concile Vatican II, Saint Paul VI et le pape François en ont témoigné dans trois textes importants qui font partie du magistère de l'Église. Hein. Ce n'est pas des exhortations. C'est le magistère de l'Église et qui m'a été demandé de vous présenter. Alors, j'insisterai surtout sur le premier texte, Gaudium et Spes, parce que c'est un texte qui malheureusement est contesté aujourd'hui encore, parce qu'on dit que ce n'est pas une constitution dogmatique, c'est une constitution pastorale. Mais le Concile Vatican II a donné des constitutions dogmatiques. Il a donné une constitution dogmatique sur le mystère de l'Église, donc Lumen Gentium, lumière des nations. Et cette constitution dogmatique, elle reprend tout ce qui a été approfondi par le magistère de l'Église depuis Jésus, jusqu'au moment du Concile Vatican II. Donc le magistère, les pères de l'Église, les docteurs, les saints, les théologiens, tout au long de l'histoire de l'Église. Cette constitution dogmatique est d'une très grande richesse. Et cette constitution dogmatique, je vous invite, si vous l'avez jamais lue, eh bien, pendant ce temps des vacances, à prendre le temps, surtout aujourd'hui avec Internet, c'est facile de rechercher les textes, et vous verrez, c'est lumineux. Voilà. Qu'est-ce qu'est l'Église ? En 8 chapitres, nous avons tous une 2500 évêques qui ont travaillé sur cette question et qui ont voté à l'unanimité ce texte, y compris Monseigneur Marcel Lefebvre, qui l'a signé. Voilà. Alors, cette Lumen Gentium répond à la question « Église, que dis-tu de toi-même ?» Voilà, le mystère de l'Église. Comme nous l'avons entendu hier, ou aussi dans la lecture de Saint Ambroise ce matin, mais vous n'avez pas eu la lecture de matine, eh bien, nos yeux, dans tout ce qui se vit dans la liturgie, voient ce qui est sensible. Mais avec la foi, nous voyons ce qui n'est pas sensible. Et c'est le mystère de Dieu, c'est ce qui se vit dans l'invisible. Et c'est cela qui est le plus important. C'est la foi de l'Église aussi. Voilà, l'Église, malgré, on peut dire, ses limites, malgré les pauvres instruments que nous sommes, l'Église est une sainte, catholique et apostolique. Parce que l'Église est l'Église du Christ. L'Église est animée de l'Esprit Saint. Voilà, c'est ça le mystère de l'Église. Et elle est divine et humaine. Voilà. Divine et humaine. Ensuite, la constitution pastorale Gaudium et Spes. Alors, c'est une constitution pastorale. Donc, c'est pas le dogme à proprement parler, même si cette constitution pastorale s'appuie sur le dogme de l'Église, une sainte catholique apostolique, mais la constitution pastorale répond à cette question Église. Qu'as-tu à dire et à apporter au monde et aux hommes de notre temps ? Donc, il est bien évident qu'une constitution pastorale signée en 1965 peut se développer avec des nouveaux défis que l'Église doit affronter et peut, dans les années à venir, avoir des éléments qui vont se développer aussi en fonction des défis que nous avons à apporter. Donc, l'Église de 1965 répondait à cette question, qu'est-ce que nous pouvons apporter au monde et aux hommes de notre temps ? Dans l'introduction à la session, je vous avais indiqué très rapidement cette constitution pastorale, mais je n'avais pas tellement développé. Je vous ai dit seulement que les évêques de Vatican II n'étaient ni des rêveurs, ni des utopistes. Pourquoi ? Parce que la plupart des évêques connaissaient les combats que l'Église menait en 1965. Donc nous avions Cardinal Beran, qui a été Tchécoslovaquie, un martyr, on peut dire... pour faire face au communisme. Nous avions Karol Wojtyła, nous avions Cardinal Wyszyński, nous avions pas mal de, d'évêques et de cardinaux de ces pays de l'Est qui ont dû affronter le marxisme, marxisme qui était très agressif. Avant, ils avaient affronté le nazisme. Ensuite, en Amérique latine, eh ben, il y avait les problèmes des dictateurs militaires, il y avait le problème, voilà, ce grand combat aussi qui commençait à venir, le marxisme qui entre aussi en Amérique latine, le marxisme qui est rentré aussi en Afrique, hein, puisque nous avons ici plusieurs de l'Afrique, etc. Donc, tous ces évêques connaissaient les combats que l'Église devait mener. En plus, nous avions ce combat entre l'URSS et les États-Unis. Hein? Khrouchtchev avait installé ses missiles à Cuba et menacé les États-Unis d'envoyer les missiles sur les États-Unis. Donc là, John Kennedy a tapé du poing sur la table et a dit stop, ça suffit, si vous n'enlevez pas vos missiles, c'est la guerre mondiale. Voilà. Donc c'était tout ça qui se vivait à l'époque du Concile Vatican II. Eh bien, les pères du Concile auraient pu dire Luctus est encore prédominé parce que la constitution pastorale, le titre de la constitution pastorale, c'est toujours les premiers mots de la Constitution. Donc les premiers mots, on a choisi Gaudium et Spes, mais les deuxièmes mots, c'était Luctus et Angor, ça veut dire tristesse et angoisse. Mais on a voulu privilégier Gaudium et Spes. Voilà. Et on a voulu privilégier Gaudium et Spes tout simplement pour le réalisme de l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire le réalisme de l'espérance? Eh bien, Saint Paul VI a donné une homélie exceptionnelle au moment où était promulgué Gaudium et Spes. Je vous invite, pendant ce temps des vacances, à relire cela, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui était vraiment dans cette homélie exceptionnelle de Paul VI. Voilà. Donc, qu'est-ce que Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II ont voulu ensuite mettre en application? L'amour de l'Église pour l'humanité. Les sentiments du cœur de Dieu le Père qui a tellement aimé ce monde qu'il lui a envoyé son Fils unique. Donc, l'amour de l'Église pour l'humanité a sa source dans le cœur de Dieu. C'est ça qui a contribué à la rédaction de Gaudium et Spes. L'homme est la route de l'Église. C'est Jean-Paul II a souvent repris cela. Et cet homme est un homme blessé, comme l'homme blessé qui est au bord du chemin. Et le prêtre, le lévite, ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Ils laissent l'homme blessé là. Et puis voilà qu'il y a un samaritain qui lui s'approche et qui voit cet homme blessé, qui va s'arrêter, qui va le secourir et qui va tout faire pour le soigner. Eh bien, nous, Église, nous avons à nous occuper, comme le bon samaritain, de l'homme qui est blessé. Par sa dignité, l'homme est grand. Pourquoi? Parce qu'il est à l'image de Dieu. Mais par sa condition historique, il est blessé par les conséquences du péché originel et de ses propres péchés. Cet homme historique, l'Église veut l'aimer en imitant le bon samaritain. Le grand message toujours actuel de Gaudium et Spes, c'est « Malgré les tristesses et les angoisses qui n'ont pas cessé d'augmenter en notre monde, nous devons être les témoins de la joie et de l'espérance. » Ce message est évangélique. Je tiens à redire, il n'est vraiment pas question d'optimisme utopique, mais de réalisme de l'espérance. La joie et l'espérance que le Concile a voulu annoncer au monde et que nous devons annoncer aujourd'hui était uniquement fondé sur Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Voici ce qu'a dit Mgr Éric Warden, prédicateur de la retraite du pape Léon XIV et des membres de la Curie, fin février 2026. Le Christ nous appelle à communiquer l'espérance au monde. Avoir l'espérance chrétienne ne signifie pas nécessairement être optimiste. Un chrétien renonce aux vœux pieux et fait un choix déterminé en faveur du réel. Les démagogues promettent que les choses iront mieux. Ils revendiquent un pouvoir démiurgique pour changer les communautés au cours d'un mandat électoral, détournant les masses de leurs déceptions ressenties en leur distribuant du pain, des billets pour le cirque et en diffamant leurs adversaires. Les paroles du Christ sont bien différentes. Il nous dit « Vous aurez toujours des pauvres parmi vous ». Il affirme qu'on se dressera nation contre nation. Des persécutions viendront. Les ennemis d'un homme seront les membres de sa propre famille. Il n'y a pas de résignation boiteuse dans ces déclarations. Le Seigneur nous oblige, nous ses disciples, à travailler sans relâche pour une humanité nouvelle et saine, formée par la charité dans la justice. Il nous dit de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Nous devons mettre en pratique les béatitudes en faisant briller la gloire qui s'y cache. Mais alors que nous nous y employons, il nous rappelle « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Tel est notre évangile. Notre époque en a grand besoin. Les jeunes qui se lamentent dans nos parcs, le cœur lourd en ont soif. Ils écoutent lorsqu'il est présenté avec autorité par des chrétiens capables à la fois d'en exposer et d'en montrer la vérité sans compromis, en montrant le pouvoir gracieux du Christ de renouveler et de transformer les vies. À Clairvaux, en 1139, Saint Bernard prononça son dernier sermon sur le psaume 90 la veille de Pâques. Il respire la joie d'un athlète qui a terminé sa course. Le père qui a prêché la retraite du pape a été cistercien. Il était évêque, maintenant Éric Warden, mais il a été cistercien. C'est pour ça qu'il est rempli aussi des enseignements de Saint Bernard. La vie d'un moine, dit Saint Benoît, devrait être un carême continu, toujours centré sur la victoire du Christ sur la mort. Le temps liturgique révèle le sens profond de notre existence en tant que telle. Bernard le dit explicitement. Les épreuves de la vie sont les douleurs de l'enfantement. Elles nous font découvrir ce que signifie être vivant. Nous vivons pleinement lorsque la vie est vitale et source de vie. Nous sommes nés pour porter du fruit. Il y a une espérance de gloire dans la tribulation, dit Bernard à ses moines, avant de se corriger et de dire que non, la gloire est dans la tribulation comme le fruit est dans la graine. Et il s'exclame, « Mes frères, la gloire se cache maintenant dans la tribulation, l'éternité se cache dans le moment présent, un poids sublime et incommensurable dans cette légèreté. » Bon, je vous passe pour tout le reste parce que ça serait trop long. Mais je peux dire merci au prédicateur de la retraite du Saint-Père d'avoir fait découvrir, pas nécessairement de faire découvrir au pape, il avait déjà découvert ce qu'est le réalisme de l'espérance des pères du Concile Vatican II de Gaudium et Spes. Oui, continuons en notre temps à privilégier la joie et l'espérance aux tristesses et angoisses que nous partageons avec les hommes de notre temps. Le deuxième texte, Gaudium in Domino de Saint Paul VI. Alors là aussi, il faut le situer dans son histoire. Saint Paul VI a écrit cette magnifique lettre apostolique, donc ce n'est pas une encyclique, ce n'est pas une exhortation post-synodale, c'est une lettre tout simplement du pape qui s'appelle Lettre apostolique sur la joie à l'occasion de la Pentecôte de l'année sainte 1975. situant cette lettre apostolique dans la vie et la mission de Paul VI. Depuis 1968, ce pape vivait un vrai martyr moral. Il avait eu le courage de promulguer d'abord le credo du peuple de Dieu, qu'on appelait credo de Paul VI, en la fête des saints Pierre et Paul de l'année 1968. Dans ce credo, qui a été écrit surtout par Jacques Maritain et le cardinal Journet, donc Jacques Maritain et le cardinal Journet étaient des grands amis de Paul VI. Mais bien sûr, l'autorité c'est Paul VI, voilà. C'est-à-dire que même si le texte est écrit par un tel ou un tel, le texte est le texte du pape, voilà. Donc c'est le texte du pape. Et dans ce texte, Paul VI a répondu avec autorité aux principales graves erreurs doctrinales qui de fait étaient des hérésies et qui étaient proférées dans le courant progressiste moderniste. Charles et Laetitia, hier, nous ont fait une conférence remarquable, et particulièrement sur le fait que la liturgie, elle est liée à la liturgie céleste. Elle est liée aux anges. Et dans les années 68, on a remis en question dans le courant progressiste l'existence des anges. J'ai suivi pendant 4 ans les cours chez les jésuites à Rome, à la Grégorienne. On n'a jamais eu un seul cours de 3 quarts d'heure sur les anges en 4 ans. Voilà. Voilà. Donc il y avait beaucoup de choses à redresser, et Paul VI a été très courageux, bien sûr avec l'aide de Jacques Maritain et avec l'aide du gardien Journet. Mais il ne s'arrête pas là. Donc évidemment, déjà, le credo du peuple de Dieu n'a pas été accepté par l'ensemble de l'Église. Il faut le dire, elle n'a pas été acceptée. Lorsque notre fondateur a fait pour l'année sainte en 1975, le pèlerinage de l'année sainte à Rome avec des amis, il a voulu proférer à la basilique du Latran le credo de Paul VI, et la plupart disaient: mais qu'est-ce que c'est que ce credo, on ne connaît pas? Et non, je ne connais pas. Pourtant, ça faisait 7 ans qu'il avait été promulgué. Le 27 juillet de cette année 1968, là, il a été plus que très courageux. Il a promulgué l'encyclique Humanae Vitae, par laquelle il rappelait la doctrine de l'Église catholique concernant l'union conjugale des époux. Il a eu le grand courage de dire que la contraception était un mal parce qu'elle séparait union conjugale et procréation. Tous les médias du monde se sont ligués contre Paul VI. Bon, en 1968, j'avais 17 ans. Il y a plusieurs parmi vous qui n'étaient pas encore de ce monde. Et je peux vous dire que vraiment, le pauvre pape, ça a été vraiment une attaque, une insulte de partout, de tous les médias, de tous les médias, de tous les médias. Voilà. Et de nombreuses conférences épiscopales ont critiqué le pape et ont refusé de suivre l'encyclique Humanae Vitae, à commencer par la conférence épiscopale de France. Il faut dire la vérité. La conférence des évêques de France a bien sûr dit oui, c'est tout ça, vous m'en évitez, bien sûr, c'est pour une élite, mais en cas de conflit de devoirs, c'est la conscience des époux qui décidera. Donc ça veut dire que la conscience des époux est au-dessus du magistère et que Humanae Vitae n'a pas... Voilà. Et donc Paul VI, devant cette très grave crise qui secouait l'Église depuis 68, ne savait pas en 1974 s'il devait ouvrir l'année sainte 1975. Vous savez que les années saintes, il y en a tous les 25 ans. Donc il y avait eu 1950, 1975, 2000, 2025. L'année dernière, on était en année sainte ordinaire. Voilà. Et Paul VI disait, qui répondra à notre appel? Il était complètement marginalisé. Il n'a plus jamais donné d'encyclique après cette année 1968. Il a été totalement marginalisé. Donc, il a quand même fait confiance à ses conseillers qui lui ont dit, si, Saint-Père, il faut décréter l'année sainte 1975. Et il a ouvert l'année sainte. Et à la fin de l'année sainte, il a parlé avec beaucoup d'enthousiasme des auditeurs inattendus, les jeunes. 75 a été une étape importante pour l'Église. Voilà, et je me suis converti pendant cette année-là. Je l'ai dit déjà, je ne vais pas le redire aujourd'hui, mais c'était le 11 février 75. Et c'est vrai que lorsque le pape Paul VI a ouvert l'année sainte pour la Noël 1974, voilà, j'avais pas tellement de... J'étais tombé dans la tiédeur, dans une grande tiédeur, voilà. Eh bien, je comprends qu'il s'est passé quelque chose dans cette année sainte 1975. Et donc, ce pape aurait eu toutes les raisons de ne pas parler de joie et d'espérance, hein. Mais en la fête de la Pentecôte de cette année sainte 1975, il a voulu donner à l'Église et aux hommes de bonne volonté une lettre apostolique sur la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, car il est proche de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Notre invitation appelle essentiellement au renouvellement intérieur et à la réconciliation dans le Christ. Il y va du salut des hommes, il y va de leur bonheur plénier. Nous vous invitons à implorer de l'Esprit Saint le don de la joie. C'est pour nous une exigence d'amour que vous invitez à partager cette joie surabondante qui est un don de l'Esprit Saint. C'est une sorte d'hymne à la joie divine que nous voudrions entonner afin qu'il éveille un écho dans le monde entier et d'abord dans l'Église. Que la joie soit répandue dans les cœurs avec l'amour, dont elle est le fruit, par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Mais comment ne pas voir aussi que la joie est toujours imparfaite, fragile, menacée? La technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à sécréter la joie. Car la joie vient d'ailleurs, elle est spirituelle. L'argent, le confort, l'hygiène, la sécurité matérielle ne manquent souvent pas. Et pourtant, l'ennui, la morosité, la tristesse demeurent malheureusement le lot de beaucoup. Cela parfois jusqu'à l'angoisse et au désespoir. Et là, il va faire un catalogue un petit peu de... des multiples joies humaines que le Créateur met déjà sur nos chemins. Je ne fais que citer tout cela. Vous avez déjà entendu pas mal de choses par les causeries ou les témoignages. Joie exaltante de l'existence et de la vie. Cécile a remercié ses parents pour avoir eu le courage de lui donner la vie. Et c'est vrai qu'il faut les remercier. Joie de l'amour chaste et sanctifié. Joie pacifiante de la nature et du silence. Joie parfois austère du travail soigné. Joie et satisfaction du devoir accompli. Joie transparente de la pureté, du service, du partage. Joie exigeante du sacrifice. Le chrétien pourra les purifier, les compléter, les sublimer, il ne saurait les dédaigner. La joie chrétienne suppose un homme capable de joie naturelle. C'est bien souvent à partir de celle-ci que le Christ a annoncé le royaume de Dieu. Bon, nous avons des familles avec des enfants et nous sommes très heureux de vous accueillir. Mais vous savez, Qu'est-ce qui va donner de la joie à vos enfants pendant ces temps de vacances? Bon, vous pouvez leur faire faire des choses très, très, très chères, très, très compliquées, très, très sophistiquées, tout ce que vous voulez. Je ne pense pas que ça leur donnera une grande joie. Ça va être un bon petit pique-nique au bord de l'eau. Et là, ils seront heureux. Voilà. Et puis, Saint-Paul Zis a été un prophète. Hein, pour parler de la crise de notre temps. Nous sommes en 1968, et ce qu'il dit en 1968 est encore plus valable en 2026. C'est l'homme en son âme qui se trouve démuni pour assumer les souffrances et les misères de notre temps. Elle l'accable d'autant plus que le sens de la vie lui échappe, qu'il n'est plus sûr de lui-même, de sa vocation et de sa destinée transcendante. Il a désacralisé l'univers et maintenant il désacralise l'humanité. Il a parfois coupé le lien vital qui le rattachait à Dieu. Dieu lui semble abstrait, inutile. Sans qu'il sache l'exprimer, le silence de Dieu lui pèse. Oui, le froid et les ténèbres sont d'abord dans le cœur de l'homme qui connaît la tristesse. On peut parler ici de la tristesse des non-croyants. Lorsque l'esprit humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est donc orienté instinctivement vers lui, comme vers son bien suprême, unique, reste sans le connaître clairement, sans l'aimer, et par conséquent sans éprouver la joie qu'apporte la connaissance de Dieu, même imparfaite, et la certitude d'avoir avec lui un lien avec que la mort ne saurait rompre. Qui ne se souvient de la parole de saint Augustin ? Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en toi. Voilà, alors, je ne vous en dis pas plus, parce que chacun, vous pouvez télécharger cette lettre apostolique qui est merveilleuse. Paul VI était un grand humaniste, hein. C'était un quelqu'un qui avait de la culture, c'est pour ça qu'il était très ami de Jacques Maritain, très ami de Cardinal Journet, très ami de Jean Guiton. Et donc, voyez, c'est cette analyse qu'il fait sur la tristesse de l'homme moderne, c'est tout à fait ça. Vous voyez, l'analyse de Kierkegaard, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, eh bien, c'est le pessimisme total, quoi. C'est quel est l'avenir de l'homme? Il y a aucune espérance. Voilà. Voilà, Nietzsche et compagnie, tous ces philosophes qui ont prôné la mort de Dieu, prônent la mort de l'homme. C'est évident, puisque l'homme est fait pour Dieu. Donc, je pense que tout ce qu'a écrit Paul VI vaut pour nous aujourd'hui, et vous pouvez vous en servir, ceux qui font de la philosophie, qui sont professeurs de philosophie, vous pouvez vous en servir. Donc, il parle de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui habite en plénitude la personne de Jésus le rendait pendant sa vie terrestre si attentif aux joies de la vie quotidienne, si délicat et si persuasif pour remettre les pécheurs sur le chemin d'une nouvelle jeunesse de cœur et d'esprit. C'est vrai que aujourd'hui, à 20 ans, on peut être vieux. Et c'est vrai. On a des pauvres jeunes aujourd'hui qui sont abîmés, qui sont, voilà, ils sont vieux. Ils ont plus de foi, ils ont plus d'espérance, ils ont plus. Et on a des personnes, notre fondateur, il est mort à 92 ans et il était toujours jeune. Toujours jeune d'esprit. Parce que c'est l'Esprit Saint il faut pas se décourager devant l'état de certains qui, les pauvres, c'est pas de leur faute, ils sont des victimes. Mais l'Esprit Saint peut leur donner une nouvelle jeunesse de cœur et d'esprit. Je cherche Jacques et Cécile. Hein? Voilà. Ils sont jeunes maintenant, notre Cécile et notre Jacques. Hein? Mais non. Et on peut dire la même chose pour chacun de nous. C'est évident, c'est évident. C'est ce même esprit qui animait la Vierge Marie et chacun des saints. C'est ce même esprit qui donne aujourd'hui encore à tant de chrétiens la joie de vivre chaque jour leur vocation particulière, dans la paix et l'espérance, qui surpasse les échecs et les souffrances. C'est l'esprit de Pentecôte qui emporte aujourd'hui de très nombreux disciples du Christ sur les chemins de la prière, dans l'allégresse d'une louange filiale et vers le service humble et joyeux des déshérités et des marginaux de notre société, car la joie ne peut se dissocier du partage. En Dieu lui-même, tout est joie, parce que tout est don. Notre dernier mot, dit Paul VI, est un appel pressant à tous les responsables et animateurs des communautés chrétiennes, qu'ils ne craignent pas d'insister à temps et à contre-temps sur la fidélité des baptisés à célébrer dans la joie l'Eucharistie dominicale. Comment pourrait-il négliger cette rencontre, ce banquet que le Christ nous prépare dans son amour, que la participation y soit à la fois très digne et festive? C'est le Christ crucifié et glorifié qui passe au milieu de ses disciples pour les entraîner ensemble dans le renouveau de sa résurrection. C'est le sommet ici-bas de l'alliance d'amour entre Dieu et son peuple. Signe et source de joie chrétienne, relais pour la fête éternelle, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous y conduisent. Merci Saint Paul VI d'avoir, malgré le martyre moral dont vous souffriez et la marginalisation dont vous étiez victime depuis l'année 68, d'avoir appelé tous les baptisés et les hommes de bonne volonté à la joie en la solennité de Pentecôte de l'année sainte 75. Parce que pour vous, la joie est vraiment le fruit de l'Esprit Saint. Et puis le troisième texte, c'est le texte du pape François, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Le pape François signait cette exhortation apostolique en la solennité du Christ Roi 2013, le jour où se clôturait l'année de la foi qui avait été initiée par le pape Benoît XVI. Les références de l'Écriture concernant la joie sont nombreuses et éclairantes. À la suite de saint Paul VI, le pape François a pressé les baptisés d'être des chrétiens joyeux. « N'ayons pas des mines de carême », disait-il. Mais normalement, si on suit l'Évangile, on ne doit pas avoir des mines de carême, puisque Jésus a dit quand vous faites pénitence, que vous jeûnez, vous parfumez la tête, pour que personne ne voit que vous avez jeûné. Jésus est le fondement de la joie chrétienne. Et voilà, ça c'est un peu le style du pape François. La joie grandit en la communiquant. Le chrétien qui n'a aucun désir missionnaire et qui vit replié dans la prison de son moi ne connaît pas la joie, la vraie joie. Imitons la Vierge Marie dans son mystère de la visitation. Elle porte Jésus à sa cousine Élisabeth. L'Esprit Saint suscite la joie de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie, de Jean-Baptiste et d'Élisabeth. C'est une page extraordinaire des évangiles, on l'a entendu hier. Hein. D'abord, la Sainte Vierge part en toute hâte, elle est pressée. Elle ne va pas simplement faire le ménage pour sa cousine Élisabeth. Elle avait autre chose, elle avait des personnes qui lui feraient le ménage. Non, elle y va pour lui porter Jésus. Elle y va pour lui porter Jésus. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire. Élisabeth ne sait pas pourquoi sa cousine vient la voir. Elle ne le sait pas. Et voilà que l'enfant qu'elle porte en elle, qui est Jean-Baptiste, tressaille de joie dans le sein de sa maman. J'ai préparé une maman qui était enceinte à sa confirmation. Et j'ai essayé de lui parler de ce passage de l'Évangile avec enthousiasme. Et bien son bébé a fait comme Jean-Baptiste. Ouais. Et voilà, il a tressailli de joie. Voilà, vous voyez, c'est l'Esprit Saint. Donc, la nouvelle évangélisation concerne tous les baptisés et ne sera féconde que si tous vivent de la joie de l'Évangile et la rayonne à chaque instant de leur vie. tant dans leur famille que dans leur lieu de travail ou dans leurs loisirs. Voilà, évangéliser dans le souffle de l'esprit, c'est ce que le pape François a voulu nous dire à la suite de Saint Jean 23, de Saint Paul VI, de Saint Jean Paul II, de Benoît XVI et de lui-même. Voilà, c'est ça qu'il désirait comme une église ardemment missionnaire. L'église missionnaire, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Vatican II, dans la fidélité à sa grande tradition. L'exhortation, la joie de l'évangile est vraiment un vibrant appel à la mission. Oui, au défi d'une spiritualité missionnaire. Non à l'assédie ou à la paresse égoïste. Non au pessimisme stérile. Oui aux relations nouvelles engendrées par le Christ. Non à la mondanité spirituelle. Non à la guerre entre nous. Elle nous appelle à renoncer à une toute petite vie tranquille, à renoncer à vivoter pour sortir et aller aux périphéries, pour rencontrer ceux qui ne connaissent pas l'Évangile et leur porter Jésus. Alors, aussi, bon, là je ne vous cite pas ce que j'ai écrit après, parce que je veux laisser un peu de place à Loïc Bertrand et à Béatrice. Oui, mais c'était un 2h30. Je croyais que j'ai marqué à 9h30. Oui, on a le temps. La messe est à 11h. On a le temps. Il y a la place pour Loïc. Voilà. Mais je voudrais terminer encore avec quelque chose qui m'avait bien plu, parce que je suis sportif quand même. J'aime le football. J'ai joué au football. J'ai même joué au rugby. On a joué contre les Anglais, contre les Irlandais. J'étais à Rome, quand j'étais au séminaire français, mais on était nuls, hein, parce que bon, les autres, les Anglais, les Irlandais, vous savez, ils font pas de cadeaux, hein, nous, on ne s'entraînait pas. Bon. Mais le pape François avait dit stop aux chrétiens défaitistes. Parce que si on est toujours défaitiste, on fera rien. Bon, on est les disciples de Jésus qui nous a dit « j'ai vaincu le monde ». Alors, est-ce qu'on croit que Jésus a vaincu le monde? Est-ce que vraiment, hein? Jusqu'à présent, vous voyez, c'est toujours la même chose. Demain, on va voir la demi-finale France-Espagne. On va le regarder avec les enfants de la colonie. C'est à 21h, c'est pas trop tard. Bon. Et. Non, mais jusqu'à présent, c'était toujours la même chose. On nous disait toujours, on va perdre. Hein? Ben, si vous abordez un match en disant, on va perdre, c'est pas la peine, hein. Donc, évidemment, en face, on a des Espagnols qui savent jouer au foot, mais on a aussi des Français qui savent jouer au foot. Et donc, aujourd'hui, on a changé de tactique, on va gagner. On va gagner. C'est pas vrai, Marie-Aimée ?
C'est pas comme le fait qu'il y a l'église pour garder le
monde. Non, mais ça, c'est vrai. Nous, on ne va pas regarder la demi-finale dans notre église. Vous avez raison, Marie. Non, mais c'est vrai que, je dirais, c'est ce qui était un peu le tonus de ce texte, c'est la joie de l'Évangile. Il faut qu'on ait affaire à des chrétiens qui soient maintenant zélés missionnaires et qui aient envie de faire connaître Jésus et de le faire aimer et de se dire, oui, on a la religion, l'unique religion qui a été fondée par Dieu lui-même. Hein? Eh oui! Eh oui! Bon, voilà. Alors, Loïc et Béatrice, maintenant, vous avez un petit quart d'heure. 10 minutes.